vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café Littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café Littéraire, celle du mois d'avril. Avec comme thème des rêves pour un monde meilleur, surtout en cette situation. Célébré par de grands auteurs authentiques comme Ondine Kaya, Éric Grange, Pierre Lefranc, Ness et Martin Blachier, qui donne sa version de cette histoire secrète de la pandémie qui nous a frappés si douloureusement. Et je remercie Gilles Paris et toute son équipe qui a attiré mon attention sur ces livres et ma séduction aussi, car ces livres ont été pour moi saisissants. Et je commence par le roman de Ondine Kaya, un grand nom de la littérature. J'espère que vous la connaissez, sinon c'est vraiment à découvrir. Son titre, son livre, c'est un roman qui s'appelle « Il ne faisait que rêver », qui vient de paraître aux éditions Charleston. Et c'est elle qui m'a donné le titre de cette émission, qui est aussi un signe des temps que nous vivons, avec une vaccination imposée par les gouvernements afin d'éradiquer un mal. Ce qui fait penser au Covid-19, même si, dans ce roman, il s'agit d'un autre mal que vous découvrirez en le lisant. Mais on y retrouve la manière ou la méthode dont les puissances financières imposent au gouvernement leur dictat au détriment de la liberté intime des citoyens. Le deuxième livre est pour moi aussi important, même s'il est plus condensé. C'est un roman. Et ça s'intitule « Et mon cœur attirera les richesses du monde » de Éric Grange aux éditions Le Duc. Le troisième livre est un roman, mais historique. Ça s'appelle « La montée de l'Empire » par Pierre Lefranc aux éditions F. Deville. Si dans les deux premiers romans, on a parlé d'âme et de cœur, ici aussi dans ce roman, il est l'objet de bien des convoitises et des découvertes techniques, même si au début de ce texte, présente un grand artiste à la fin du XVe siècle. On voit le vieil Antonius qui s'éteint, entouré des siens, en particulier, il a deux fils, il a un fils qui lui semble beaucoup plus prometteur, laissant en héritage à ce fils qui revient d'Italie, la vision du paradis qu'il a eue quelques jours plus tôt et qu'il n'a pas pu terminer, enfin la peinture qu'il n'a pas pu terminer, donc ce sera à son fils de terminer cette peinture extraordinaire, d'une lumière extraordinaire. Cette anecdote véritable, parce que les artistes ont véritablement existé, est le prologue à une grande épopée qui nous mènera des lumières au monde d'aujourd'hui. Une épopée que j'ai aimée tout particulièrement, vous comprendrez pourquoi. Le quatrième livre est un témoignage, est une autobiographie, celle de Ness, je ne sais pas si vous la connaissez, dans le monde des médias, elle est très connue, celle de Ness, ça s'intitule « Ma vérité », deux points, des mots M-O-T-S et des mots M-A-U-X, parce qu'elle en a vécu, elle en a des mots dans son parcours, aux éditions Casa. Née à Casablanca, Ness, de son vrai nom Neysa Boubekri, grandit en France mais garde un lien profond avec son pays d'origine, le Maroc. Devenue journaliste et directrice artistique de chaîne, elle impose son style, quitte à déranger parfois. Et puis je terminerai par Méga Gâchis de Martin Blachier aux éditions du Cerf, un grand éditeur. Voilà, je vous en dirai plus à ce moment-là. Donc je reviens au premier roman, celui de Ondine Kaya. Dans son nouveau roman, qui est un événement, comme tout ce qu'elle fait, Il ne faisait que rêver, aux éditions Charleston, elle reprend cette phrase de Christian Bobin, parue dans un de ses textes, Christian Bobin. La terre se couvre d'une nouvelle race d'hommes à la fois instruits et analphabètes, maîtrisant les ordinateurs et ne comprenant plus rien aux âmes, oubliant même ce qu'un tel mot a pu jadis désigner. Voilà, le mot « aux âmes » a été dit, et dans nos sociétés matérialistes athées, combien en ont conscience ? Corps et âme, c'est une défaillance accrue de nos personnalités dénoncée par ces auteurs authentiques que des puissants veulent s'approprier, profitant de l'ignorance des gens. Dans ce grand roman, Ondine Kaya met en scène deux amies, deux grandes amies, Tali et Alissa, qui se sont rencontrées en Inde, d'une manière providentielle, car elles étaient de deux bords différents, donc, et cette rencontre va les souder, et qui, face au Gange pollué, se font une promesse du haut de leurs 9 ans d'unir leurs forces pour changer le monde. Ouais, c'est un grand programme, vouloir changer le monde, et que ce ne soit pas qu'un rêve. 20 ans plus tard, on les retrouve à Paris, où elles sont devenues de ferventes militantes écologistes, mais dans le bon sens du terme. Elles organisent une grande marche pour le climat, une marche paisible. Pour la première fois, la jeunesse défile en même temps dans toutes les capitales du monde. Mais malheureusement, de violentes explosions vont anéantir brusquement leur espoir d'un avenir meilleur. Alissa parlait à la foule, chaque mot était pesé, efficace, précis, alors que Tali, la reporter, photographiait cet événement. « Nous tous, disait-elle, réunis dans le monde entier, nous nous battons pour la vie. » Voilà. Malheureusement, une bombe, une explosion va mettre fin à sa vie. Et Tali, anéantie, désorientée, elle trouvera quand même un éclat rose sur le sol, un morceau du sari d'Alissa qu'elle glissa dans sa poche. Alissa, elle c'est vraiment indienne, d'origine indienne, qu'elle glissa dans sa poche et s'en alla avec sa moto, une blessure au front. Et comment faire face en l'absence d'Alissa, qui était tout pour elle? Son ami Arthur, inquiet, est venu pour la réconforter, mais il ne l'accompagna pas en Inde, au nord-ouest de Bénarès, pour accompagner et rendre les restes de la dépouille d'Alissa à sa famille, la famille d'Alissa que Tali connaissait bien aussi. car tous les trois avaient formé un trio, même si Arthur semblait être encore amoureux d'Alissa. Puis elle revint à Paris pour continuer son métier de journaliste. Avec l'accord d'Antoine, son supérieur, son rédacteur en chef. Elle sillonna les rues de Paris à moto pour prendre la température et écrire un nouvel article, un article fort, sur cette tempête. Les Champs-Élysées étaient transformés en centre d'injection géant, avec des tentes où s'agglutinaient des citoyens encore sous le choc de ce que CNN qualifiait de « deuxième 11 septembre ». Car en effet, face à cette menace terroriste ou autre, on ne sait pas trop, les gouvernements prennent alors une décision radicale, celle d'entrer d'une manière inédite dans l'intimité des citoyens, afin, soi-disant, de détecter toute idée de violence, comme si l'on pouvait ainsi empêcher toute âme terroriste de s'exprimer, ou au contraire, hors de ce vaccin. Donc, voilà pourquoi on veut, comme nous avons connu, vacciner tout le monde pour extirper des gens cette violence. Et jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Soudain, les rêves et les promesses d'enfance deviennent plus importants que jamais. Et une course urgente s'engage afin d'éviter la mort ou l'asphyxie des petits citoyens face à des géants de l'informatique sans scrupules qui veulent prendre le pouvoir et tout contrôler. C'est vrai que vous verrez par la suite, en lisant ce grand roman de Ondine Kaya, que on va juger des gens inutiles ou qu'on peut utiliser pour au profit d'autres personnes, voyez. Donc après le succès du Parfum de l'exil que j'avais présenté ici, que j'avais vraiment beaucoup aimé, Ondine Kaya s'empare une nouvelle fois des grandes questions au cœur de son travail. À savoir, peut-on tout vendre et tout acheter ? Quelle valeur donner à la vie humaine et aux âmes dans nos sociétés matérialistes à outrance ? Ce roman est un vibrant plaidoyer pour l'avenir de notre humanité commune. C'est aussi un roman d'amour, une histoire très forte d'amour entre Slimane qu'elle va rencontrer justement peu avant l'attentat à Paris et Thalie. Une très très forte histoire d'amour inédite que vous allez découvrir va se faire entre Slimane et Thalie. Slimane jugé inutile ou utile ou nuisible, et puis il y aura heureusement l'action de Victor Duval qui est le père de Thalie, vous verrez plus ou moins complice avec ce qui s'est passé dans une certaine clinique de Pearson et donc grande entreprise agité par des démons, World Link, voilà. Je vous laisse découvrir tout ça, même l'hypnose qui sera utilisée, parce que Ondine Kaya connaît bien, est une thérapeute qui connaît bien aussi cette méthode de l'hypnose et qu'elle utilise dans ce grand roman de Ondine Kaya, Il ne faisait que rêver, qui vient de paraître aux éditions Charleston. Et je parle du deuxième livre que je vous avais promis, le deuxième livre intitulé « Et mon cœur attirera les richesses du monde ». C'est de Éric Grange aux éditions Le Duc. Éric Grange est un globe-trotteur passionné par les traditions spirituelles du monde, fondateur directeur de l'agence Oasis, l'éveil au monde, créé en 2007, qui fait voyager 2500 personnes par an en conciliant évasion, découverte spirituelle et ouverture de conscience. C'est une chose, l'ouverture de conscience, la conscience, c'est une chose qui me parle et qui m'a séduit fortement dès les premiers pas de ce voyage qu'il propose, car ce livre est un voyage spirituel qu'il propose au lecteur, à ses lecteurs, car il a des lecteurs. Tony, son personnage principal, revient d'un tour du monde, les étoiles plein les yeux. Guéri parce qu'il avait une maladie du cœur, guéri par cet éveil aussi bien spirituel qu'émotionnel, il retourne à Bali, résolument attiré par l'île des dieux où se trouvent quelques amis. Mais avant d'y parvenir, il partage dans ce roman ses observations et ses rencontres faites au Québec, parce qu'il va commencer ce voyage par le Québec, où il est invité à Tadoussac, beau village. Il est invité à un séminaire, et c'est là, dans un site qui offrait une vue à couper le souffle, que les stagiaires, une cinquantaine de personnes variées, des Belges, des Canadiens, des Français, qui allaient toutes les stagiaires, apprendre de l'art de captiver les foules grâce à l'éloquence. Et la première rencontre, c'est celle avec Marie-Louise Bonaventure, qui fut la première amie prof à prendre la parole et à leur enseigner l'art de captiver. Et va lui apprendre aussi beaucoup de choses sur lui-même, qu'il doit utiliser son ancienne blessure du cœur comme d'un atout. Et le développement va mettre du baume sur les meurtrissures anciennes. Et lorsqu'elles ont disparu, une libération se produit, et nous retrouvons alors notre plein potentiel créatif. La structure, Tony, voilà, c'est le secret qui va permettre à ton activité de perdurer et de se développer. C'est aussi l'âme de ton entreprise à définir, la structure. Et Tony, donc, avait appris en visitant cette belle région du Québec qu'un tout nouveau palace de Montréal proposait des excursions à ses clients et qu'il recherchait du personnel pour encadrer ses sorties. Suivant son intuition, il décida de postuler. Il fut accepté, et c'est ainsi qu'il posa la première pierre de ce que deviendra son activité et sa vie. Une réussite liée au cœur et un chemin sans fin, puisqu'il s'agit d'un chemin spirituel, de servir de guide actif et spirituel à des touristes. Parce qu'il comprend bien que c'est justement de se mettre au service de ces promeneurs-visiteurs qu'il va pouvoir créer quelque chose et savoir accepter aussi de donner avant de recevoir. Voilà, de formules très belles qu'il va mettre en scène dans sa vie. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il rencontra Tim. Tim est un homme sympathique, providentiel même, fondateur-directeur d'une entreprise de produits bioéthiques qui s'intitule Organic Online, au prix juste, ce qui n'était pas le cas du sirop d'érable vendu à la ferme qui, contre toute attente, venait de Chine et non pas du Québec. Alors c'est un mensonge épouvantable à accepter pour les clients comme pour lui-même, ce qui fait que Tony va donner sa démission. Et Tim, c'est Tim qui va l'initier à la confiance de soi et à persévérer même si l'on échoue. Que c'est à force d'insister que l'on peut mener une telle entreprise internationale à la réussite. Parce que son entreprise est devenue internationale. Et il faut penser gagnant, 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 trois fois, avec trois parties. Si je prends par exemple l'hôtel, eh bien il y avait l'hôtel. Voilà, il y avait toi, et puis les clients qui ont été désabusés, arnaqués, puisque tu étais complice de cette vente du sirop d'érable alors qu'il n'était pas québécois. Et tôt ou tard, eh bien, cette entreprise sera vouée à péricliter, à l'échec. Comme Tim partait faire une mise au point, tous les ans il fait une mise au point sur son affaire, et pour cela il va au Bhoutan faire une retraite dans un monastère bouddhique. Et par sympathie, il a proposé à Tony, désabusé, de venir avec lui en lui offrant le billet de l'avion. Alors ce dernier accepta. Et le Bhoutan, que je vous laisse découvrir, sera un passage riche d'enseignements pour lui, et c'est le cœur rempli de gratitude qu'il eut alors la certitude de devoir retourner à Bali et de revoir ses amis. Mais pour cela, il devait passer par le Népal et faire escale à Katmandou, où, dans la nuit, un séisme le réveilla en sursaut, ainsi que les habitants avec des maisons en ruine et les avions cloués au sol. Il devait donc attendre là, et peu à peu, tournant en rond, il rencontra un homme qui semblait très bien connaître les lieux, qui s'appelle Gary, qui était en route pour l'Australie, mais qui, comme lui, va se trouver bloqué par ce tremblement de terre. Il va lui servir de guide et même lui proposer une association pour financer la reconstruction. Tony se laisse séduire par cette action humanitaire, et il va se tourner vers Tim pour emprunter une grosse somme d'argent. Celui-ci, qui lui fait totalement confiance, lui verse l'argent. Malheureusement, Gary est un escroc qui va profiter de l'allant et de la naïveté de Tony, partir sans lui dire, parce qu'il avait mis l'argent sur un compte personnel, disons que c'était comme ça que les choses se faisaient là, au Népal, à Katmandou, et donc il s'en va avec l'argent, sans lui dire qu'il partait, Alors bien sûr, Tony va être vraiment, va se sentir trahi depuis son retour sur l'île des dieux à Bali, parce qu'elle va quand même parvenir à y aller. Tony tournait en rond dans sa chambre. La violente trahison qu'il venait de subir lui ôtait toute envie d'entreprendre. Heureusement, il put communiquer avec Marie-Louise, la Québécoise, vous vous souvenez. Et donc, c'est elle qui est vraiment de très très bons conseils, qui est une amie et de bons conseils. « Est-ce que tu n'as pas été un peu trop pressé ?» lui dit-elle. « Car elle convient d'avancer avec patience et prudence. Et surtout, ne t'associe jamais, car tu dois rester seul maître à bord. Ne t'associe jamais. » Ayant décidé de se reprendre en main, il demanda à une amie, Mad, de lui apprendre le balinais, une langue assez simple. Au plus vite, car il devait trouver un travail, il devait rembourser beaucoup d'argent à Tim, donc il devait trouver un emploi, un travail. Alors il a pensé refaire ce qu'il avait fait au Québec, de visiter les hôtels et puis d'en trouver un, et d'établir, de faire le métier de guide accompagnateur. Et justement, il a réussi à satisfaire à la fois l'hôtelier, les touristes qui étaient très enjoués, très partenaires de ses visites, et lui-même, parce que, voilà, donc les gagnants, les trois gagnants étaient réunis, donc il pouvait donc constituer ainsi, de cette façon, son entreprise sur une bonne étoile, sur sa voie, sa bonne voie, et il se rend compte que la vie est abondance et que l'abondance se donne à celui qui sait écouter. Il avait tout pour réussir, un amour avec Yasmine qu'il avait découvert en Égypte et qu'il retrouve avec grande passion. Et puis, il est devenu un accompagnateur à grande échelle. Donc, ce livre « Et mon cœur attira les richesses du monde » d'Éric Grange aux éditions Le Duc est tout un bonheur. Voilà. Alors on devrait pouvoir faire une interruption musicale avec la musique sicilienne de Gabriel Fauré, interprétée par Audeliès Michel et sa sœur Laure Hélène Michel au violoncelle, alors que j'avais découvert Audeliès Michel l'an dernier à Brou. Une jeune mais magnifique déjà pianiste, et elle, Audeliès, va revenir en juin à Perona, et vous pourrez alors, ce sera un événement musical, l'écouter aussi, elle au piano, accompagnée au violon par une personne très bien, par Anne Lepage, la clarinette, qui est elle aussi très bien, qu'on connaît depuis longtemps. Donc je vous laisserai l'écouter, cette musique, la sicilienne. Thank you. Parler des deux premiers, c'est-à-dire d'Ondine Kaya, Il ne faisait que rêver aux éditions Charleston, de Éric Grange et Mon cœur attira les richesses du monde aux éditions Le Duc. Et donc je vais vous parler aussi d'un livre pour moi très important, La montée de l'Empyrée. C'est de Pierre Lefranc aux éditions F. Deville, toujours diffusé en France par Gilles Paris. F. Deville, qui est un éditeur belge, que je retrouve avec plaisir. Oui, j'ai aimé ce roman qui met en scène un certain Géronimus qui revient d'un voyage en Italie, un voyage très constructif car il a découvert de nouvelles formes de peinture, de façons de peindre. Il va pouvoir mettre ça à profit. Et à qui son père fait part de sa vision céleste et qui le charge de rendre en peinture cette vision céleste. Tous les matins, Géronimus, parce que c'est son prénom, se rendait à l'atelier pour travailler et sa réputation grandissait vraiment de jour en jour. C'est vraiment un très grand peintre. Et pour se différencier de son frère Gossen, qui travaillait aussi dans l'atelier ou dans un atelier, il prit l'habitude de signer Van den Bosch. Alors, oui, il s'agit bien de ce grand peintre Jérôme Bosch, ou appelé Géronimus Bosch, que je vous laisserai lire la suite de qu'on retrouve à la fin du prologue, mais qu'on le retrouve à la fin de ce roman, La montée de l'Empyrée de Pierre Lefranc. Pour arriver à cette grande aventure humaine et scientifique menée par des femmes et des hommes qui ont pratiqué une nouvelle façon de penser, afin que progressent au rythme des idées, des inventions, des découvertes, des joies, des passions et des drames, car il y aura des drames, des morts, pour aboutir au développement de la stimulation électrique du cœur. Voilà, c'est le thème principal de ce roman, La montée de l'Empyrée de Pierre Lefranc, vraiment un grand écrivain. Sujet central de ce roman historique. Avec en première partie les précurseurs, que l'on va découvrir tout d'abord à Bologne en 1756, avec Leopoldo Caldani, fortement intrigué par les expériences sur le fluide électrique, comme Réaumur lui-même à Paris, donc on retrouve à Paris, avec des expériences sur la grenouille, sur le muscle et sur le cœur. Ils arrivent à une constatation, le cœur est donc irritable. Et si se pose une question, et si l'électricité qui provoque la contraction du muscle ne vient-elle pas d'une source, ne vient pas d'une source extérieure, c'est qu'elle vient nécessairement de l'intérieur de l'animal. Alors cette théorie innovante fut accueillie comme une bouffée de connaissances fraîches dans l'Europe des Lumières. Oui, nous sommes à l'époque de l'Europe des Lumières. Toujours prompte à écouter les idées nouvelles, rassemblant les scientifiques comme les profanes. Tout le monde semble vouloir participer à cette découverte. Et en suivant l'expérience de Volta, lui-même à Paris, en positionnant un muscle entre deux plaques, on obtient une contraction, même avec le corps de la grenouille. Puis l'on va passer à Tiberius Cavallo de Naples. Vous voyez, on voyage vraiment dans l'Europe de l'époque, qui met au point un condensateur à partir de deux disques de cuivre disposés l'un en face de l'autre, comparable à celui d'une bouteille de LED. Et ainsi, on dispose d'une grande quantité d'impulsions très rapprochées. Grâce au professeur Kett, doyen du Collège royal de chirurgie en Angleterre, qui va faire venir Aldini de l'université de Bologne, et ensemble, ils vont faire une démonstration, voulant utiliser le corps non plus d'un animal, mais d'un criminel pendu. Ce criminel s'appelle Forster, et donc ce chirurgien bien connu va pouvoir utiliser le corps de ce Forster pour faire une expérience, mais avant le délai de 30 minutes, parce qu'on sait déjà que, passé ce délai de 30 minutes, le cœur ne pourra plus réagir, le corps ne pourra plus réagir. Afin d'obtenir une stimulation électrique du cœur. Et la démonstration va être extraordinaire. On va voir du pouvoir de l'électricité galvanique qui va sembler redonner vie au cadavre de Forster. Aldini va atteindre son objectif, c'est-à-dire marquer les esprits et créer une incroyable effervescence partout en Europe, à Turin, à Paris, avec Bichat. On fit de telles démonstrations sur les pendus ou sur les guillotinés afin de comprendre le fonctionnement du corps et que l'on soit médecin et même philosophe, chercher à redéfinir les limites de la vie et de la mort. Voilà. On arrive à un thème douloureux, dangereux, voilà. Parce que, voilà pourquoi je dis que ce roman est passionnant, qui soulève de grandes questions. Parce que donc la stimulation du cœur, on va voir que les expressions sur le visage de Forster ont repris vie, se sont déplacées, que son tronc s'est soulevé, que vraiment il a eu l'impression de revivre, hein, ce Forster, alors qu'il était mort. Donc là, on est à un passage de la vie et de la mort. Est-ce que l'homme créé, à partir de ce moment-là, avec un cœur artificiel, enfin avec un cœur, ne va pas aller au-delà de la mort? Donc une grande question. On voit bien aussi que cet auteur s'intéresse à beaucoup, la montée de l'Empire, s'intéresse vraiment à beaucoup de choses concernant toujours cette idée, parce que l'on voit à Coligny, en Suisse, été 1816, Claire Marie, Percy, Shelley, et puis Byron, alors que les hommes fuyant Londres et les persécutions de Londres parce qu'ils ont dépensé de l'argent et qu'ils sont en délicatesse et que donc ils fuient, ils vont donc en Suisse au bord du lac Léman. Et là, alors que les hommes font du canotage, de la barque, eh bien les femmes, Marie attend un bébé, donc elle est sagement là, ils se mettent à écrire des nouvelles. Et c'est là que Shelley va imaginer une nouvelle fantastique qui s'intitule « Docteur Frankenstein » que vous avez dû lire ou entendre parler. Donc on voit bien toujours, on est dans la note un peu partout dans cette Europe-là et puis on va aller en Amérique. Sous la plume de Pierre Lefranc, et à mes yeux, cette aventure historique est fabuleuse. C'est vraiment la montée de l'Empire, un roman à lire et à relire. Et dans la deuxième partie, les pionniers que je vous laisse découvrir, je veux juste préciser qu'on va avoir l'élaboration, on va voir l'élaboration d'un stimulateur cardiaque, vous voyez. Nous sommes dans les années 1958 aux États-Unis, mais on revient aussi, et les boîtes de dérivation, mais on revient aussi ailleurs, en Suède, ou en France, en Italie. Parce que on va voir que un certain Rune Helmquist, qui est médecin ingénieur. On aura aussi dans ce livre, vous allez voir un peu une opposition entre scientifique et médecin, parce que le médecin tente à vouloir préserver la vie. Hein. Et donc ils mettent en douce ce que les scientifiques pourraient découvrir. Donc ce Rune Helmquist, un médecin et un ingénieur, qui dans plus grand secret tentait de mettre au point un pacemaker implantable. Vous voyez, je l'ai dit le mot, le pacemaker implantable. Donc il y a eu des morts, bien sûr, on ne peut pas les oublier, mais ils ont servi à la science, à arriver à parvenir à ce pacemaker implantable. Mais aussi pour cela, il faut noyer le stimulateur dans une résine synthétique. Ainsi, les transistors seraient à l'abri, car on ne peut pas les mettre dans le corps comme ça. Donc, à vous, chers lecteurs, de lire la suite de ce grand roman historique, car cela dépasse tout à fait l'imagination, comment ces scientifiques, ces médecins sont parvenus à ce pacemaker implantable. On parlera aussi plus loin du matériel utilisé, voilà. Donc j'arrête là pour ce grand roman « La montée de l'Empire » de Pierre Lefranc aux éditions F. Deville. Et je passe à Ness. Et je passe à Ness, un autre roman différent, très différent de ces trois premiers romans. Mais on parle quand même aussi... vous allez voir, je le découvre aussi. Ness, ma vérité, des mots et des mots, mots M-O-T-S et mots M-A-U-X, aux éditions Casa, qui vient de paraître, toujours diffusé par Gilles Paris, que je remercie grandement. Par Gilles Paris, que je remercie grandement. Parce qu'il attire mon attention sur des romans qui méritent tout à fait mon attention. Passant plus de temps, comme vous le savez, dans les livres et les nouveautés littéraires qui ne cessent de croître, j'avoue que Ness, je ne la connaissais pas, mais que je la découvre, et que vous aussi, vous pouvez découvrir son style fort singulier. Ce portrait qu'elle fait de Neza Boubekri, plus connue sous le nom de Ness, arrachée à son Maroc natal à 3 ans. Elle raconte dans ce portrait, elle raconte un combat pour la vie. Vous voyez, on n'est pas très éloigné du thème pour une vie meilleure. Un combat pour la vie. Celui d'une femme qui s'est imposée sur la scène médiatique, que les non-initiés peuvent découvrir aussi, comme ce fut mon cas, et ce malgré ses origines modestes. Elle est forte et pétrie des valeurs, avec en plus la richesse de sa double culture, car elle se dit toujours marocaine et quand même d'une culture française, puisque elle a appris le français à 9 ans, voilà, mais elle le partage vraiment très très bien, ce français. Un livre dans lequel on navigue entre chapitres graves, gais, insolents, drôles, optimistes, mais aussi coups de gueule et émotions douces quand elle parle de ses parents, en particulier de son père, qu'il adorait et qu'elle adore, et puis le roi du Maroc, qui pour elle est un grand personnage. Le tout est expliqué avec la sincérité qui caractérise Ness. Une femme universelle, inclassable et aux multiples facettes. Avec humour, elle nous ouvre les portes des coulisses de la télévision et du monde politique. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est vraiment son témoignage, ma vérité, des mots, est vraiment à lire. Elle brise tous les faux semblants, sans langue de bois. Elle dénonce l'hypocrisie des politiques, car elle les a interviewés à plusieurs reprises, et elle les connaît bien. Elle dénonce aussi les responsabilités de certains médias et aborde avec émotion tous les sujets qui jalonnent son parcours, comme la pédophilie, la violence conjugale, où on en parle, c'est un sujet d'actualité, les deuils impossibles aussi, et la misogynie qui règne dans ce monde des médias. En conclusion, dit-elle, je remercie Dieu et mes parents pour les valeurs fortes qu'ils m'ont transmises et qui m'ont accompagnée à chaque instant. La vie, dit-elle aussi, a son lot de moments enchantés et de claques en pleine gueule. Celle qui vous sonne, puis celles qui vous mettent KO. Quelle que soit la claque que vous prendrez, c'est elle qui vous fera grandir et vous permettra d'avancer. Voilà. Ce livre de Ness est une très très belle leçon d'apprentissage et de permettre et d'avancer dans la vie. Alors il me reste un cinquième livre à vous présenter, c'est Le méga gâchis de Martin Blachier qui est paru aux éditions du Cerf, concernant cette pandémie, ce virus COVID-19 dont nous avons été victimes. Martin Blachier est médecin-chercheur spécialiste en santé publique, statisticien et épidémiologiste, très connu des médias, car il a parlé à plusieurs reprises dans les médias pour se faire connaître. Avec un ami, un génie qui vit à Rio de Janeiro, Henri Leleu, parce que Henri Leleu a rencontré une âme qu'il aime beaucoup et qu'il a épousée, et donc il ne veut pas quitter Rio de Janeiro. Donc ils ont fondé une start-up, Public Health Expertise, et ils continuent à se rencontrer, à communiquer ensemble par le télétravail, et à faire une analyse médico-socio-économique de cette situation et de créer un modèle sur mesure. Par ce livre, Martin Blachier livre le récit de son combat contre la technocratie et lance une alerte sur les dérives de notre démocratie qui choisit des scientifiques qui n'ont pas toujours les compétences requises. Voilà, parce que parmi les scientifiques, la technocratie, c'est ça, c'est elle qui va tourner en rond, permettre au gouvernement de tourner en rond, de prendre des décisions pas au bon moment, de vouloir changer ses décisions. Voilà. Mais il met en alerte les dérives de notre démocratie qui choisit donc des scientifiques qui n'ont pas toujours les compétences requises pour gérer cette situation face à ce virus, justement. Si on y avait écouté ces modalisations et ces prévisions, nous aurions anticipé les vagues et les variants, limiter les confinements à répétition, accélérer les vaccinodromes et autotests, compte tenu le désastre économique, politique et psychologique, avec de très nombreuses dépressions collectives, et de lutter, ce que ne fit pas le gouvernement, face à la défiance à l'égard de ce vaccin, où on avait ceux qui étaient vaccinés, ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui ne pouvaient travailler, ceux qui ne pouvaient pas travailler. C'est vraiment quelque chose de terrible, ce qui s'est passé. Il fallait élaborer le fait, il élabore avec son ami, le fait que la transmission se fait par aérosol, semblable à celle de la grippe ou du rhume. Commun, c'est donc bien de porter des masques, alors que le gel hydroalcoolique, que l'on le fasse pour avoir des mains propres, d'accord, par hygiène, mais ce n'est pas ce qui va permettre, comme on a dit, il ne faut pas se serrer les mains, que ce n'est pas par les mains, mais c'est bien par l'aérosol que se transmet ce virus. Car la contagion circule, on sait, de vaccinés, de non-vaccinés. Mais j'y reviendrai par la suite, parce que c'est un sujet grave qui mérite sans doute d'être approfondi. Je voulais dire aussi qu'il va opposer les hobbies, voilà. Les médecins et les pharmaciens qui ont voulu participer. Alors, on a bien vu qu'au départ, il n'y avait que les hôpitaux, et quand il n'y avait plus de place dans un hôpital, pour la réanimation, on passait à un autre hôpital ou un autre pays comme l'Allemagne. Donc, il y avait une course. Alors que lui, il propose qu'il faut passer par les vaccinodromes. C'est le plus efficace, alors que après, on s'échappe avec le médecin traitant, avec les pharmaciens pour d'autres vaccins. Voilà. Et lequel choisir par rapport à ce qui existe. Alors qu'il faut plutôt vacciner ceux qui se mêlent à des foules hétéroclites, hétérogènes, et non pas les écoles, le vase clos des écoles, qui fait qu'on sait que les écoliers ne sont pas très ou contaminés ou ne portent pas beaucoup le virus ou le font de façon faible, mais qui ne sont pas comme les personnes vulnérables aux plus de 60 ans qui, elles, sont des risques importants. Voilà ce que je voulais dire sur ce quatrième livre, sur ce cinquième livre, pardon, Le méga gâchis de Martin Blachier, Histoire secrète de la pandémie, qui est paru au Cerf. Je rappelle aussi que il dit, c'est vrai que on a tendance à penser que face à une telle pandémie répandue dans le monde, que c'est la vaccination pour tous qui va réussir, parce qu'on ne peut pas, imaginer même, hein, c'est une utopie, que tout le monde va se faire vacciner, ce n'est pas possible dans notre société. Donc, alors qu'il existe un traitement qui a bien été utilisé, et donc il faudra bien revenir à une sagesse. Voilà, je vais donc terminer. Donc, je vous ai parlé de ces grands romans. Ondine Kaya, Il ne faisait que rêver, aux éditions Charleston, suivi de Éric Grange et Mon cœur attira les richesses du monde, aux éditions Le Duc. Puis La montée de l'Empire, aux éditions F. Deville, vraiment pour moi un grand, grand livre historique. Ness aussi, une figure tout à fait impertinente à découvrir, avec Ness, Ma vérité, Des mots et des mots, chez Casa Édition. Et puis Martin Blachier, qui revient sur ce méga gâchis, L'histoire secrète de la pandémie, aux éditions du Cerf. Et je vous quitte sur ces bonnes paroles, et je vous dis au mois prochain. Voilà, à bientôt, au revoir. Vous écoutez Patrice Perrin, L'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.